Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello les amis, ici Pauline Agnot, j'espère que vous allez bien et je vous emmène aujourd'hui sur une nouvelle leçon. Les leçons, vous savez, ces moments qu'on passe ensemble, à peu près 20-30 minutes où on discute d'un sujet qui vous taraude, qui vous tient à cœur, qui vous titille, qui vous chagrine. De temps en temps, j'essaye d'y répondre au mieux à vos côtés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Rime. Rime, qui est d'origine berbère, je ne dis pas ça pour rien, c'est parce qu'elle a créé une très jolie marque qui s'appelle Tazuri Création et qui a pour objectif justement de remettre en valeur cette belle culture sur des objets du quotidien. Et elle me pose ainsi la question suivante. Pour grandir, vaut-il mieux assumer d'être niche ou est-ce qu'il vaut mieux élargir sa cible? Est-ce qu'on peut concilier les deux? Et si jamais on décide d'élargir sa cible, passer mainstream, si je puis dire, comment faut-il faire? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Vaste sujet, s'il en est, quasiment toutes les entreprises à un moment donné dans leur développement y passent. Et c'est pour ça que j'étais d'autant plus ravie de répondre à cette question avec Rime. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Rime!
Salut Pauline.
Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui avec moi. Est-ce que d'abord tu vas bien?
Oui, je vais bien. Merci à toi de m'accueillir sur la leçon.
Eh bien, c'est un grand plaisir. Écoute Rime, est-ce que tu pourrais, comme le veut la tradition des leçons, commencer par te présenter et puis ensuite me dire quelle est ta question?
Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Rime, j'ai 29 ans. Te situer un petit peu le contexte, je suis née, j'ai grandi en Algérie, à Alger précisément, avant de venir m'installer en France pour faire mes études. Et puis là, ça fait une dizaine d'années que je suis installée. Et depuis 5 ans environ, je m'intéresse beaucoup aux tatouages que portaient les femmes berbères. Donc c'est un sujet que peu de personnes connaissent, mais en fait, en Afrique du Nord, les femmes se faisaient tatouer le visage et le corps pour marquer des grandes étapes de leur vie, donc un mariage, une naissance par exemple, mais c'était aussi pour se donner de la force et du courage, donc chacun des symboles que portaient ces femmes avait une signification. Et malheureusement, cette tradition aujourd'hui, qui pourtant date de l'Antiquité, est en train de disparaître complètement. Et surtout, le gros problème à mes yeux, c'est qu'il y a très peu d'ouvrages sur le sujet et les livres qui en parlent ne sont même plus édités. Donc en fait, en 2017, à la fin de mon doctorat en chimie, qui n'a évidemment rien à voir avec les tatouages.
Je veux dire, encore que, tu sais, la chimie, bon,
c'est ça,
toujours utile.
On peut toujours trouver un lien, mais ouais. Tu verras, ça en a pas beaucoup. Donc à la fin de ma thèse, j'ai décidé de créer une marque qui s'appelle Tazuri Création, à travers laquelle j'essaye en fait de faire vivre la signification de ces symboles au travers des objets du quotidien. L'idée c'était de, plutôt que d'oublier complètement cette tradition ou de se faire tatouer de façon permanente, ben de décliner ces symboles et leurs significations à travers des objets. Et donc au début on avait commencé par de la déco, puis on a étendu nos créations à des bijoux, des t-shirts, mais aussi des kits de tatouage éphémères.
Okay.
Et donc on a réussi à créer une belle communauté via notre compte Instagram, mais aussi via la partie blog de notre site que j'alimente régulièrement autour des tatouages et de la culture berbère. Et naturellement, il s'agit principalement de personnes qui ont un lien de près ou de loin avec la culture berbère. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on a fait aussi des événements qui un peu plus mainstream, entre guillemets, qui nous laissent penser que la marque aurait potentiellement aussi du potentiel vis-à-vis de personnes qui connaissent pas du tout le sujet. Ouais. Et c'est là que ma question arrive. Et la question qu'on se pose aujourd'hui avec mon associé, c'est de savoir si pour grandir, est-ce qu'il faudrait qu'on reste sur une communauté niche, donc les gens en particulier qui ont un lien avec la culture, ou est-ce qu'il faut chercher à être plus mainstream, entre guillemets, et dans ce cas, enfin si la réponse était oui, comment devenir plus mainstream sans trahir sa communauté d'origine et son identité de niche qu'on a travaillé pendant plusieurs années. Donc voilà un peu ma question.
Excellente question, Aurélie. Est-ce que je peux déjà te demander depuis combien de temps est-ce que, tu l'as peut-être dit, mais j'ai pas suivi, depuis combien de temps est-ce que la marque existe?
Alors, la marque existe depuis 2017. En fait, je l'ai créée pendant ma thèse et puis j'ai continué à, enfin, j'ai commencé ma carrière dans la recherche scientifique. Et donc ça a commencé à ce moment-là, mais c'était, enfin j'étais impliquée soirée week-end, mais j'étais pas encore à fond. Et c'est seulement depuis octobre 2020 que je m'y investis complètement, puisque j'ai quitté mon ancien boulot et mon associé également. Et donc c'est depuis octobre 2020 qu'on est à fond sur
D'accord.
sur
donc
la
ça
marque.
Fait depuis 5 ans que la marque existe, mais depuis 2 ans que vous êtes vraiment dédiée.
Bon,
déjà félicitations, c'est un super projet et bravo de t'être lancée aussi. Écoute, c'est une super question. Malheureusement, je vais peut-être un peu te décevoir et décevoir beaucoup d'entre vous. Il n'y a pas de recette miracle. Il
n'y
a pas de réponse
bien.
Très claire. Par contre, je pense que c'est une question qui est essentielle que tu es en train de poser et où j'attire ton attention parce qu'en fait, beaucoup de gens se plantent. Et donc moi, tout l'objet de cette discussion, si tu veux, c'est essayer de réfléchir avec toi comment éviter que tu te plantes sur ce sujet parce que c'est un sujet extrêmement touchy et casse-gueule. Je m'explique. Il y a même des ouvrages qui ont été écrits pour tout te dire sur le sujet de ce qu'on appelle « crossing the chasm », c'est-à-dire le fait de passer effectivement d'une niche à finalement une population qui est plus mainstream. Parce que comme tu l'as très bien vu et comme peut-être certains d'entre vous ont vu, en gros, quand on lance son business, on commence par intéresser ce qu'on appelle souvent dans le jargon marketing des early adopters, c'est-à-dire les premières personnes qui vont être intéressées par ton business parce qu'ils ont une vraie souffrance. Donc typiquement, dans ton cas, peut-être des personnes d'origine algérienne ou berbère qui se disent « Ah bah c'est vrai, finalement, c'est magnifique, je l'ai perdu ça dans ma culture » et donc ils vont avoir un lien, on va dire, d'affinité plus facile pour vous à attirer. C'est génial de commencer par une niche parce qu'en fait, bah, du coup, ces personnes-là, elles se regroupent entre elles, elles ont en général énormément de points communs et elles ont une vraie souffrance. Donc, à tout point de vue, si tu veux, je dirais que c'est un peu plus facile d'avoir ces personnes-là. En plus, souvent, c'est des personnes qui sont hyper impliquées, qui sont hyper engagées parce que,
bah,
juste, en fait, elles se reconnaissent. Donc, franchement, la niche, je veux pas te dire que c'est pas bien. C'est absolument essentiel de réussir déjà, il faut commencer par une niche. Ça, c'est quelque chose que je dis, que je répète souvent. Et tu as tout à fait raison, d'avoir commencé par là. Si je tire un peu, un parallèle avec, moi, ma carrière et notamment chez Gémio ou avec le podcast d'ailleurs. Bah, avec le podcast, les premières personnes qui ont commencé à s'intéresser à mon podcast sont des entrepreneurs, notamment des solopreneurs, des entrepreneurs qui galéraient parce qu'ils avaient besoin de conseils, qu'ils avaient une souffrance et donc bah, qu'ils avaient besoin aussi d'une ouverture d'esprit sur le monde. Donc, c'est pour ça qu'ils écoutaient des podcasts. Il se trouve que maintenant, comme bah, j'ai réussi à élargir, si tu veux, mon audience, j'ai une audience qui est beaucoup plus large que ça et en réalité, les entrepreneurs représentent moins de 50% de mon audience selon les sondages que j'ai pu faire. Donc, j'ai réussi à cross the chasm, c'est-à-dire passer d'une niche à une cible plus mainstream. De la même manière avec Gémio, on a commencé en fait par s'adresser à une niche qui était les personnes qui étaient connaisseurs de pierres extrêmement rares, particulières. Je l'ai déjà raconté, donc je vais faire court. Mais en gros, qui étaient intéressés, donc ils nous ont prouvé parce qu'ils avaient cette souffrance et qu'on était la seule marque à proposer en fait des pierres atypiques comme la tourmaline, etc. Et finalement, l'un de nos enjeux et qui a été très compliqué, et c'est pour ça que j'attire ton attention sur ce point, c'est que on a voulu à un moment donné sortir de cette niche. Nous, il se trouve qu'on l'a fait au bout de 3 ans à peu près, 3-4 ans. C'est pour ça que je t'ai posé la question du timing. C'est une question de timing, de savoir quand est-ce qu'il faut sortir de la niche. Et on a commencé à essayer de s'adresser à une autre clientèle. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de le faire et quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Premièrement, pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, tes early adopteurs n'ont pas les mêmes besoins que la cible mainstream. Du coup, le problème, c'est que si jamais tu veux réussir à parler aux deux, ça va être assez difficile parce que tu vas te rendre compte que si tu veux être vraiment en phase, si tu es aligné avec ta cible d'early adopter, en fait, tu vas presque faire peur, si tu veux, à la cible mainstream. Si je prends un exemple là, j'imagine donc que tu as une communauté qui est très engagée, qui connaît bien le monde berbère, l'Algérie, etc. Si jamais tu es trop ancré là-dedans, en fait, des personnes qui, en fait, n'ont aucun lien avec l'Algérie, mais juste, par exemple, qui trouvent que c'est beau ce que tu fais, bah, vont se dire « Ah non, mais ça n'est pas fait pour moi parce que je ne suis pas algérienne. » Tu comprends? Et donc, il faut faire assez attention à en fait ce non-alignement qui est réel et qui est la raison pour laquelle on appelle ça crossing the chasm, c'est-à-dire en gros sauter par-dessus un fossé si tu veux, parce que tu vas littéralement devoir passer d'un côté de la barrière si tu veux, l'escalader et passer de l'autre côté. Et donc ça c'est évidemment assez difficile à faire parce que finalement il va forcément y avoir un peu de dommages collatéraux qui sont que tu vas moins plaire à ta niche, qui va probablement gueuler un petit peu parce qu'ils vont moins se reconnaître, ils vont trouver que tu deviens un commercial ou trop mainstream, ce qui sera effectivement le cas. Et c'est à ce moment-là qu'il faut un peu bander les abdos et se dire, ben, en fait, est-ce que c'est ma stratégie Et donc, est-ce que je continue ou pas? Et donc, en gros, mon conseil, et puis du coup aussi juste un retour d'expérience, c'est de te dire, c'est difficile, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Sache que on ne devient pas mainstream en 6 mois, 1 an. Ça va prendre 2 à 3 ans avant que tu arrives réellement à le faire. Et cette période va être une période difficile. Et il y a un ouvrage d'ailleurs que je t'invite éventuellement à lire, ou en tout cas tu peux en lire si tu veux des extraits, qui s'appelle donc Crossing the Chasm, qui a été écrit, je crois, par quelqu'un qui s'appelle Geoffrey Moore, qui théorise, si tu veux, ce phénomène qui est que quand tu passes de la niche au mainstream, en fait, il y a des années de vache maigre, parce que bah, tu parles ni plus vraiment à ta niche initiale qui est un peu en désamour parce qu'elle se reconnaît plus forcément, et t'es pas encore suffisamment connu auprès du mainstream, si tu veux, pour qu'ils se disent trop bien, j'adore ce qu'ils font. Donc, en fait, c'est une période qui est difficile, et c'est pour ça que je voulais t'alerter sur ce point de vue, parce que c'est une période où, concrètement, tu plais un peu à personne. Mais si tu t'accroches, si tu persévères, et si t'as une vraie stratégie qui est que t'as décidé qu'effectivement, tu voulais t'adresser à du mainstream, et donc, en fait, essayer de montrer au travers de ta marque, de tes produits, comment tu peux apporter quelque chose à une clientèle mainstream, une fois de plus, qui n'aura pas les mêmes besoins que ta clientèle niche, eh bien, ça peut ensuite être absolument formidable et très, très bien marcher. Et au contraire, si tu veux, c'est ce qu'il explique dans son livre et ce qui est une réalité, c'est ce que j'ai vécu aussi avec Gémio, avec le podcast. Ensuite, après ces quelques mois ou années de vache maigre, tout d'un coup, si tu veux, t'as un appel d'air énorme parce que tout d'un coup, bah, en fait, les personnes qui avant se désintéressaient de toi, tu les touches au cœur et cette clientèle mainstream qui est beaucoup plus importante va s'intéresser à toi. Donc, tout ça pour te dire et quand même pour que tu visualises dans ton cheminement d'entrepreneur que c'est pas une décision à prendre à la légère parce que à la fois, c'est probablement, si tu veux donner de l'ambition à ton projet nécessaire, mais il faut quand même que tu réalises que beaucoup de boîtes se sont plantées au moment où ils ont essayé de cross the chasm, parce qu'en fait, ça se passe jamais bien, c'est difficile pour tout le monde, et que du coup, il faut s'accrocher, il faut tester plein de choses différentes pour plaire à la cible mainstream jusqu'à ce qu'un jour, ça fonctionne. Donc, c'est un peu comme de rebâtir l'entreprise une deuxième fois, tu vois, si je peux le dire de manière un petit peu directe.
Ouais, je comprends.
Donc ça, c'est un premier point, et je suis désolée de te dire ça de manière un petit peu brutale, mais c'est aussi pour t'alerter.
C'est hyper intéressant.
ce que je peux te dire aussi, c'est que c'est une décision, c'est-à-dire que tu peux prendre la décision stratégique de t'orienter sur du mainstream si c'est ta volonté et que tu penses que, et c'est ce que l'ambition que tu veux donner à ton entreprise, et c'est tout à fait possible de faire, mais ça veut dire que dans ce cas, tu cherches à faire une entreprise, tu vois, qui soit plus grand public, effectivement, et qui intéresse beaucoup de monde. Tu peux aussi, il n'y a pas du tout de mal à ça, décider de continuer à t'adresser à une niche et de très, très bien t'adresser à une niche, mais en ayant plus de produits, par exemple, différents. Et donc, en fait, tu vois, en ayant du chiffre d'affaires plus important, juste parce que tu vas avoir plus de diversification, si tu veux, de ton offre. C'est une option aussi. Donc là, c'est un choix stratégique. J'ai envie de te dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, comme souvent en entrepreneuriat. C'est aussi que toi, tu dois le sentir, savoir avec quoi tu es le plus aligné. Dans un cas, tu vas continuer à t'adresser globalement aux mêmes personnes et juste nourrir, si tu veux, ta marque avec plus de produits différents. Dans l'autre cas, en fait, ça va être plus un challenge entrepreneurial, mais peut-être aussi avec aussi plus de diversité, plus d'intérêt, on va dire, intellectuel pour toi, parce que, franchement, ça va être aussi un gros challenge. Donc, tu vois, à toi peut-être aussi d'en discuter avec ton associé et de prendre cette décision en toute conscience. Ce que je peux te dire, c'est que si tu prends la décision de sortir de la niche, il faut que tu le fasses en sachant que ça va être long, ça va être difficile, mais par contre, si tu t'accroches, ça peut être absolument extraordinaire.
D'accord.
je te sens là. Ah, quelle horreur, cette leçon.
Non, pas du tout. Je comprends très bien ce que tu dis. Enfin, tu parlais de la diversification de l'offre. En effet, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire depuis un petit moment. Enfin, au début, on ne faisait que de la déco. Et puis, petit à petit, on a commencé à proposer de plus en plus de produits. Et clairement, ça a eu son effet puisqu'on a connu une belle croissance grâce à ça. Et justement, là, on arrive à un deuxième palier où on a fait quelques... Enfin, je cite, par exemple, on a fait une ventouse. Là, on était au BHV Marais pendant une semaine. Mm-hmm. Et on a senti un tel engouement que c'est là qu'on a commencé à vraiment se poser la question de est-ce qu'on devrait franchir ce pas d'essayer de toucher plus de monde. Et si on le fait... Comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait seulement en diversifiant l'offre pour que ça touche plus de monde? Est-ce qu'on le fait en diversifiant la communication, en adaptant la communication à une nouvelle cible? Enfin, on a tout un tas de questions, tu l'imagines, qui nous traversent l'esprit, mais là, à chaud, j'aurais envie de dire que oui, j'aimerais que le...
T'as envie de tester, quoi.
Ouais, j'ai envie de tester et j'ai pas peur de me casser la gueule si c'est le risque à prendre.
Bon, voilà, mon job, si tu veux, c'est de t'alerter et de te faire voir un peu la réalité en face pour pas que tu prennes une décision de manière un peu inconsidérée, si tu veux. Mais une fois que t'as pris cette décision, donc peut-être discutez-en avec ton associé. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de se planter? Donc, une fois de plus, il n'y a pas de recette, hein, donc je vais pas te dire tu fais si, il n'y a pas de méthode pour le coup. Ce que je peux te dire, c'est que les erreurs fréquentes que j'ai pu voir, c'est les personnes qui font des non-choix, c'est-à-dire qui veulent continuer à s'adresser à leur cible initiale, tout en allant pour chasser la nouvelle cible, mais du coup, si tu veux, qui sont pas du tout alignés. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont à la fois se positionner comme une marque hyper pointue, berbère, par exemple, dans ton cas, et du coup, ils parlent hyper bien donc à cette cible-là, mais en même temps, ils vont commencer à faire des produits qui sont plus grand public, et puis... tu vois, qui pourrait, entre guillemets, trahir un petit peu le côté pointu de ta cible initiale. Et donc, ça peut paraître peut-être trop commercial, tu vois, pour ta cible initiale. Dans ce genre de cas, moi, ce que je conseille de faire, c'est, comme souvent, d'être assez transparent et de communiquer. Et donc, typiquement, d'utiliser ta communauté initiale pour dire, en fait, on aimerait compter sur vous pour faire rayonner, la culture berbère. Et on pense que ça, on peut la faire rayonner pas uniquement au sein des personnes qui sont d'origine algérienne, mais en fait, la faire rayonner beaucoup plus largement que nous et que vous. Et donc, aidez-nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on essaye de créer des produits qui soient peut-être un petit peu plus mainstream? Alors, tu n'utiliseras peut-être pas le mot mainstream, mais tu vois, qu'ils soient un petit peu plus grand public pour attirer l'attention de personnes qui ne sont pas d'origine berbère. Et donc, si tu communiques dessus et que tu commences à prendre les gens un peu par la main sans qu'ils aient l'impression que tu leur as fait un bras cassé derrière le dos, mais que vraiment ils sont inclus dans cette communication, déjà tu pourras en faire des alliés. Ils pourront t'aider du coup eux-mêmes devenir les premiers ambassadeurs en fait de cette nouvelle stratégie, et ils ont certainement des potes qui sont pas d'origine algérienne en parler autour d'eux. Tu peux tout à fait d'ailleurs à ce propos essayer de créer par exemple un programme ambassadeur qui justement valorise le fait que ces personnes-là vont pas uniquement parler à leur communauté berbère mais à d'autres personnes, pourquoi pas. Et puis surtout, en fait, tu vas, avec cette transparence de communication, en fait, en faire des alliés un peu à vie, parce que ils vont pas se sentir abandonnés. Le problème, en fait, de quand on cross the chasm, donc cette fameuse expression de quand tu passes de la niche au mainstream, c'est que souvent les premiers qui pourtant étaient les premiers sur lesquels t'as pu compter, qui étaient tes early adopteurs, qui étaient les plus à fond, se sentent complètement abandonnés quand la marque commence à se tourner, si tu veux, vers d'autres horizons et vers des personnes qui sont un petit peu moins, on va dire, connaisseuses, tu vois, de leur marché. Et donc, je pense qu'une bonne technique, c'est en fait d'être assez transparent avec la première communauté, leur expliquer, communiquer dessus et d'en faire une fois de plus des alliés pour essayer de faire en sorte, si tu veux, qu'ils t'aident dans cette transition. Je te dis pas une fois de plus que ça sera facile, mais déjà, je pense que ça peut être un bon moyen de commencer.
Ouais, bien sûr, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça fait écho un peu au retour que j'ai de la part des personnes, on va dire les plus fidèles qui nous suivent et ceux qui sont les plus engagés. J'ai aussi des demandes de ces personnes qui sont tellement fiers de voir ce qu'on arrive à faire et qu'on arrive à ce point à vulgariser c'est pas le mot, mais à faire connaître la culture. La semaine typiquement qu'on a passée au BHB, on a beaucoup de gens qui nous suivent, qui sont venus nous voir en personne. Et pour nous dire, justement, c'est génial de cette approche-là, de pouvoir faire découvrir. Et je pense que naturellement, ils commencent aussi un peu à prendre le rôle d'ambassadeur et de, enfin, ils sont fiers de voir qu'on,
ouais, complètement,
qu'on s'étend et qu'on touche plus uniquement qu'on ne se fait pas, on ne redécouvre pas seulement entre nous, mais qu'on fait découvrir aussi à des gens qui connaissent pas du tout et à qui ça plaît également. Donc c'est,
Globalement, si tu arrives à faire de tes clients des acteurs, si tu veux, qui bossent pour toi, c'est tout bénef, parce que eux se sentent engagés, sont impliqués, ça donne du sens aussi sincèrement à leur achat et à la relation qu'ils ont avec ta marque. Mais toi, évidemment, ça t'est de manière assez concrète très utile, parce que ça va te permettre de les utiliser, tu vois. Que, alors, je dis utiliser, le terme est peut-être un petit peu négatif, mais je veux dire d'utiliser en fait leur force pour en faire tes ambassadeurs. Et ça, c'est quelque chose pourtant qui est assez peu utilisé, je trouve, comme idée par des marques qui souhaitent changer. Souvent, c'est un peu terrible, mais c'est, j'ai ces clients et puis du jour au lendemain, je passe à autre chose. Et du coup, les gens se sentent complètement trahis, ce que je comprends, et c'est pas l'objet. Mais je pense que du coup, il faut communiquer et communiquer de manière assez abondante, si tu veux, pour que ça soit clair pour tout le monde. Que vous avez besoin de leur aide, et que, en plus, là, dans ton cas, ce qui est génial, c'est que c'est une cause, si tu veux, le rayonnement de la culture berbère. Enfin, je veux dire, à la rigueur, qu'on soit berbère ou pas, je pense que tout le monde trouve que c'est plutôt chouette. Et tu vois, c'est pas comme si tu vendais quelque chose, je sais pas, de complètement inutile psychologiquement, tu vois. Je veux dire, c'est quand même assez fort émotionnellement parlant. Et donc, je peux imaginer que c'est quelque chose qui plaira beaucoup. Donc ça, je dirais, c'est peut-être le premier conseil que je peux te donner, c'est en fait d'assumer complètement ce changement de cap et, comme c'est un conseil que je donne assez souvent, de pas faire les choses à moitié, si tu veux, et du coup de communiquer avec beaucoup de transparence avec tes clients pour faire en sorte que ça fonctionne. Une marque, c'est pour ça que j'ai eu cette idée assez simplement quand tu m'as posé la question. Une marque qui a fait ça très bien et que je t'incite peut-être à aller regarder parce qu'en plus ils ont un blog et ils ont explicité, je crois, d'assez près cette transition, c'est la marque Bonne Gueule, que tu connais peut-être, qui est une marque de vêtements pour hommes et qui ont toujours été extrêmement transparents dans leur communication. Et eux avaient un peu cette même problématique, ils s'adressaient à des hommes intéressés par le style et de manière hyper pointue, tu vois, c'était vraiment des connaisseurs de vêtements pour hommes. Et le jour où ils ont voulu s'adresser à une clientèle un peu plus mainstream, c'est-à-dire juste des mecs qui veulent des bonnes fringues, mais tu vois, qui sont pas non plus passionnés par la manière dont on fabrique le cuir de la chaussure, nanana, bah en fait ils ont communiqué dessus auprès de leur première audience pour faire en sorte que celle-ci soit bien en phase avec eux. Et évidemment, il y a toujours des personnes qui tirent un peu la gueule, mais ils ont quand même été beaucoup aidés, je crois, par l'audience initiale qui, du coup, a compris leur démarche. Et ça, je trouve que c'est intéressant, c'est de se dire comment tu utilises tes early adopteurs, non pas comme un frein, mais au contraire pour te faire grandir vers quelque chose qui est plus large.
D'accord, bon, c'est super intéressant. Et enfin, je sais pas si je peux en profiter pour poser une autre question. C'est du coup, si on décide qu'on veut élargir l'audience, est-ce que tu as des conseils sur la façon de procéder pour toucher plus de monde?
Bon, alors ça, c'est un sujet très large. Ouais. J'ai fait une formation pour tout te dire, pas que je souhaite la vendre, mais je te le dis quand même parce que tu auras forcément plus de conseils via une formation où j'ai mis beaucoup d'énergie dans tes gens, en tout cas de ce que j'ai comme intelligence et de temps, qui s'appelle Cibler efficacement ses clients, qui est une formation où je parle typiquement de justement comment acquérir de nouveaux clients et notamment quand on souhaite sortir de la niche initiale pour aller vers ce mainstream au travers d'un outil que j'utilise beaucoup en marketing chez Gemio et pour le podcast qui s'appelle le persona et qui est assez souvent mal utilisé si tu veux par les gens parce que les gens sont persuadés qu'un persona c'est juste un espèce de stéréotype si tu veux d'un mec ou d'une nana et de qu'est-ce qu'il achète. Alors c'est un peu ça, mais en fait c'est beaucoup plus complexe, ça, beaucoup plus profond et donc beaucoup plus utile. Et surtout j'explique comment utiliser le persona dans son marketing. Donc bon, sincèrement une fois de plus, D'accord. C'est pas que je demande ma soupe, mais juste pour te dire que je serai forcément plus complète dans le cadre de cette formation. Ce que je peux juste te dire, c'est que un peu de la même manière que tu as réussi à toucher au cœur, si tu veux, avec un discours et avec tes produits, la niche berbère, je pense qu'il faut que tu réfléchisses assez profondément à qu'est-ce que tu peux apporter comme proposition de valeur au travers de tes produits à une autre clientèle. Essayer de comprendre quelle est cette autre clientèle. Est-ce que c'est des femmes qui cherchent quelque chose d'atypique? Est-ce que c'est des personnes qui sont intéressées par les cultures, par le monde du voyage, les cultures, tu vois, un peu orientalisantes? Enfin, à réfléchir si tu veux, mais je pense qu'il faut que tu essaies de creuser justement quelle est cette autre cible pour éviter de tirer dans le tas, parce que l'une des erreurs les plus fréquentes quand on s'adresse au mainstream, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se plante, au-delà du fait qu'on n'utilise pas bien sa première cible et que surtout on la dévalorise, c'est qu'en fait on sait pas à qui s'adresser. Bah, c'est même pas qu'on se trompe, c'est qu'en fait on se trompe pas, c'est qu'on vise tout le monde si tu veux. Donc ouais. En fait quand tu vises tout le monde, tu vises personne. Et donc toute l'idée c'est de se dire ok, qui je vais viser, quitte à faire des tests, parce que tu t'es peut-être trompé la première fois et que tu n'as pas visé juste tout de suite, mais en tout cas que tu essayes, si tu veux, différents personas, donc différentes intentions d'achat, différents discours qui vont faire en sorte que le jour où tu toucheras quelque chose qui va en fait être touché juste, si tu veux, tu vas le sentir. Et donc je dirais que c'est ça probablement l'approche, c'est de se dire en fait, plutôt que d'essayer de viser tout le monde, sincèrement ça c'est voué à l'échec, c'est une évidence, c'est de se dire je vais tester différentes, c'est pas des niches, mais c'est différents autres sentiments, différents autres discours qui pourront plaire à un plus grand nombre, mais que tu testes ces discours et que tu essaies de t'adresser à un discours, si tu veux, en étant assez droit et assez aligné sur ce discours. D'accord. Donc, je te dis, par exemple, nous, chez Gemio, on s'adresse donc à des femmes entre 25 et 45 ans qui ne se reconnaissent pas, par exemple, dans les grandes maisons de joaillerie parce qu'elles trouvent que l'expérience est assez hautaine. et voilà, mais elles ont une très très grande exigence de qualité. Elles veulent vraiment que leurs bijoux soient absolument parfaits, soient magnifiques, etc. Donc en fait, t'as à la fois une dimension d'exigence, mais en même temps, on veut pas que ce soit bling bling, on veut pas que ce soit m'as-tu vu, et on veut pas non plus que ce soit des bijoux, on va dire, où on se sent pas bien quand on rentre dans le magasin ou quand on parle ou des gens, on se sent toisé, tu vois. Elles ont envie de sentir en fait qu'elles sont respectées pour qui elles sont.
D'accord.
Donc, typiquement, ça, c'est un discours, tu vois, qui parle à une certaine clientèle. Pas à tout le monde. Il y a des gens qui adorent avoir juste des grandes marques. C'est pas notre clientèle. Mais des personnes qui veulent de la très, très belle qualité avec un discours où, en fait, elles se sentent bien et où c'est personnalisé, où elles se sentent considérées. C'est ça notre clientèle. Donc, c'est pour ça que je te dis que le persona, c'est autre chose que de juste donner des critères CSP+, genre cette personne habite à Paris, etc. C'est plus un état d'esprit, si tu veux, ce que j'appelle un accès mental au produit dans ma formation, qui va faire que, en fait, tu vas viser une certaine clientèle qui, c'est pas marqué sur leur figure, mais en fait, se ressemble et cherche à peu près la même chose.
D'accord. Et juste une dernière petite question dans la lignée de ce que tu viens de dire. Dans ces cas-là, dans le cas de figure où tu sors, entre guillemets, d'une niche, mais que tu t'as alerté au début sur le fait que la première niche délaisse. La question que j'ai envie de te poser, c'est du coup au niveau discours et communication, est-ce que tu préconises de garder un discours qui répond aux deux personas entre guillemets, ou est-ce que il faut vraiment mener de front en parallèle deux discours un peu différents?
Alors, j'en parle aussi très en profondeur dans le cadre de cette formation, parce qu'en fait, j'explique qu'il y a très souvent un persona niche et un autre.
Ouais.
Une fois de plus, hein, je ne veux pas te vendre ma soupe, mais je te dis, je pense qu'elle te
sera
utile.
Non, je suis convaincue, j'ai déjà suivi.
Et puis, par ailleurs, pour être honnête avec toi, que si jamais t'es pas satisfaite, j'en profite pour te dire, tu peux toujours demander un remboursement. Donc, il y a vraiment pas d'enjeu, si tu veux, pour toi. Bref, tout ça pour dire que, pour répondre quand même brièvement à ta question, moi, je te conseille plutôt pas d'avoir deux discours différents. Parce que tu vas avoir du mal si tu veux à le faire. Alors, il y a des personnes, je rentre plus en détail hein, dans la formation à ce sujet, sur différents supports, tu peux éventuellement, tu vois, par exemple, LinkedIn, qui est peut-être plus masculin, tu peux avoir des discours qui sont différents de ce que tu as sur Instagram, mais globalement, ça complexifie énormément les choses, et je dirais que il vaut mieux, en fait, que tu sois aligné de A à Z avec ta marque et ton discours, mais tu peux tout à fait dire à ton audience initiale, sachez qu'on est en train de changer de stratégie et de discours, et donc tu les embarques plutôt comme ça, si tu veux, plutôt que d'essayer de conserver les deux discours en même temps.
D'accord. Ok. Super intéressant.
Bon, on pourrait en parler pendant des heures, franchement, parce que c'est un sujet qui est très vaste. Moi, en fait, je serais assez curieuse de savoir si vous prenez la décision ou pas de sauter le pas et effectivement de cross the chasm. Donc, sauter, c'est effectivement bien le terme. J'espère rien, en fait. T'as le droit de faire les deux et tu fais comme tu le sens. Mais ça, je serais assez curieuse de savoir. Donc, n'hésite pas à envoyer un petit message pour me dire ça quand t'auras pris la décision avec ton associé. Ça me ferait bien plaisir de le savoir.
Bah, volontiers.
Bon, bah écoute, Rim, en tout cas, merci beaucoup. Bravo encore à toi. Est-ce que tu peux nous rappeler une dernière fois le nom de ta marque, comme ça, pour celles et ceux qui sont intéressés, peut-être ils pourront te retrouver.
Oui, alors le nom, c'est Tazuri Création, T-A-S-Z-U-R-I, espace création avec un S à la fin.
Super. Et ben bravo en tout cas. Et
merci.
Puis, je te dis à bientôt.
À bientôt.
Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. J'ai pour ma part passé un très bon moment. Bah, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à diffuser cet épisode, bien sûr, autour de vous, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et j'en passe. Et puis, pourquoi pas un peu de bouche à oreille, hein, de vive voix, ça marche aussi. Et puis surtout, si vous souhaitez postuler à une leçon, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, Pauline Legno sur Instagram, sur LinkedIn, Pelegno sur Twitter. Et puis, pourquoi pas avec hello@paulinelegno.com. On répond à toutes vos questions. Merci à toutes pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.